Manon Becker.
Bonsoir. Filets qui traînent sur le sol ou mal tendus dans les vignes, ils peuvent être des pièges mortels pour les oiseaux. Étourneaux, merles noirs ou encore pics verts, les espèces qui mangent les raisins et ceux qui nidifient dans les vignes sont directement concernés. La station ornithologique suisse a publié une vidéo pour rappeler la pose correcte de ces filets. Chloé Peng, porte-parole de la Fondation, nous détaille la marche à suivre.
La première étape, c'est d'établir si les filets sont vraiment nécessaires. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un filet? Et si oui, il faut les mettre seulement aux endroits où les récoltes sont très menacées. Et ensuite, il faut les poser correctement. Donc, ce qui est dangereux pour les oiseaux, ce sont les bouts de filets qui traînent au sol ou alors les filets qui sont mal tendus ou qui sont troués. Donc, c'est là qu'ils s'empêtrent le plus facilement. Pour ce qui est de la viticulture, on conseille d'utiliser les filets latéraux. Et puis dans tous les cas, peu importe l'endroit, que ce soit dans un jardin privé aussi, il faut bien tendre le filet et puis si possible, choisir visible avec des mailles souples. Et puis si on a un filet qui est en place, il faut le contrôler tous les jours pour vérifier qu'il n'y a aucun animal qui est pris au piège dedans. Et si on trouve un animal, il faut le libérer et ensuite l'amener à une station de soins.
Les filets ne doivent être utilisés qu'aux endroits où la récolte est particulièrement menacée. Ceci afin d'éviter autant que possible de blesser des animaux. Anne-Claire Schott, viticultrice à Douanne, en installe seulement sur quelques parcelles.
Il faut vraiment les mettre qu'en bordure de forêt ou si un arbre. Parce que c'est souvent des petits oiseaux qui vont d'un côté à l'autre, genre qui sont sur un arbre, et après ils volent quelques mètres pour aller manger quelques raisins. Et après on couvre. À deux par année.
À noter que les filets utilisés dans les jardins doivent être installés de la même manière. Si vous tombez sur un animal blessé, il faut immédiatement le transporter dans une station de soins. Les campings souffrent de la météo maussade. En juin, la fréquentation a diminué de 30 et 50% par rapport à la même période l'an dernier, estime l'association fêtière des campings dans un article de la RTS. Les campings de montagne ont été particulièrement touchés par les mauvaises conditions météorologiques. Après, entre lac et montagne, le gérant du camping a pourtant le sourire. L'établissement ne constate pas de baisse, mais se décrit plutôt comme un camping résidentiel. Une solution à la baisse de fréquentation. Les détails de Roland Maty.
Nous sommes dans les chiffres de l'année passée aujourd'hui. Alors bien sûr, juste après le Covid, on a eu beaucoup de monde. Après, c'est de nouveau un peu redescendu. Mais maintenant, on est de nouveau dans les chiffres d'antan.
Et donc les chiffres d'antan, c'est à peu près quoi en termes de pourcentage ou de nombre de campeurs?
Nous sommes plutôt un camping de résidents. Notre base, c'est ça, c'est la résidence. Et le passage est un appoint. Donc pour nous, si on n'a pas beaucoup de passage, ce n'est pas extrêmement grave au niveau du rendement de notre camping.
Donc vous ne comptez pas beaucoup d'annulations par rapport à la météo?
Alors c'est clair qu'il y en a des annulations. Il y a énormément de demandes par mail et puis après qui annulent au dernier moment ou bien qui viennent quand même parce qu'ils sont de passage depuis le nord de l'Allemagne en direction de l'Italie ou de l'Espagne.
À noter qu'environ 180 personnes résident à l'année au camping de Presles contre seulement une trentaine qui ne sont que de passage. Le tout premier camp Jubaka s'est achevé aujourd'hui. Depuis le 21 juillet, près de 400 scouts du Jura bernois, du Jura et de Bienne ont cohabité en pleine nature. Encadrés par environ 150 bénévoles mobilisés pour ce qui est le plus grand camp d'été régional jamais organisé dans le Jura, Thomas Nagy.
L'heure était au rangement pour le dernier jour sur le site du camp Jubaka. Tout le monde s'affaire pour rassembler ses affaires, démonter les structures. Et dans cette fourmilière, Raphaël Seret a le sourire. Il est membre du comité d'organisation et il résume ces deux semaines en un seul mot.
Je pense que c'est le partage entre les différents groupes. Je pense que c'est ça aussi un mot très important au niveau du vécu du scoutisme derrière. Et puis pouvoir être là pendant deux semaines, être un petit peu dans la boue, qu'il y ait une meilleure aide entre les différentes personnes. C'est aussi une cohésion qui est meilleure dans l'esprit scout, on va dire.
Alors, vous parlez de la boue. La météo, elle n'a peut-être pas forcément été très clémente hein, pendant ces deux semaines. Il y a eu pas mal de pluie. Ça a posé problème ou au contraire, ça a renforcé les liens?
Alors écoutez, au niveau sécurité, on avait tout prévu. On avait prévu des plans s'il y avait des problèmes de pluie, de grêle et autres. Et puis je pense qu'on a super bien géré tout l'ensemble du camp à ce niveau-là. Il y avait des responsables au niveau sécurité. Et puis c'est vrai que ça donne peut-être un meilleur partage entre les gens, le fait d'être un petit peu dans la boue, d'avoir du mauvais temps. Mais par contre, on avait tellement grande palette d'activités à proposer aux participants, que ce soit les louveteaux ou les éclaireurs ou les picots, et même les bénévoles qui ont pu vivre un temps scout en fait, au niveau de ce camp. C'était vraiment magnifique.
Le moment fort pour vous pendant ces deux semaines, ce serait quoi ?
Ah, moi je vais dire, c'est peut-être l'arrivée des participants à ce camp, parce qu'on les voyait arriver en transport public, ils débarquaient tous ici au niveau du terrain de camp, dans la vallée du Folpota. C'est une vallée assez sauvage, avec la population qui nous a super bien accueillis aussi, donc c'était vraiment magnifique de les voir débarquer ici, dans ce magnifique paysage.
Flavien Chapuis, scout AVIC, était responsable d'une unité, et ce qui l'a marqué, c'est le caractère affiché par les participants face à la météo capricieuse.
Ce serait pour moi la ténacité, car on n'a malheureusement pas eu énormément de chance au niveau de la météo, et malgré justement ces intempéries, on a pu voir énormément de sourires qui s'affichaient sur les visages des enfants, ce qui a fait énormément plaisir et ce qui a beaucoup contribué à l'énergie qui a été donnée durant l'entièreté du camp pour faire des activités, que ce soit monter des bivouacs sous la pluie ou que ce soit jouer à des balles brûlées sous la pluie. On a pu voir que le plaisir était là et on continue de penser que ça reste l'essentiel de cette première édition de camp scout jurassien.
Sika est scout à Delémont et ce qui l'a touché pendant ces deux semaines, c'est de retrouver d'anciens scouts devenus désormais bénévoles.
Alors c'était surtout un grand moment de partage et c'était incroyable parce qu'il y a eu beaucoup de bénévoles qui étaient des anciens scouts qui sont venus et de voir ces mamans de nos lutins ou de nos louveteaux qui étaient là et ses papas aussi et qui étaient heureux de retrouver leur tradition, de chanter à nouveau les mêmes chansons qu'ils chantaient à l'époque. C'était vraiment super pour moi en tout cas.
Après les quelques jours de démontage du camp, le comité va se réunir pour faire un bilan plus précis de ces deux semaines avant de décider si une prochaine édition pourrait voir le jour dans quelques années.
La poésie peut-elle nous parler autant que le football ? C'est le pari d'Alexandre Caldara, directeur d'une nouvelle collection aux éditions neuchâteloises du Griffon. Pulp Collection a été lancée fin 2024 avec la publication notamment de Joie des petites catastrophes, un recueil de poésie de l'écrivain neuchâtelois Jean-Bernard Vuillem. Ce nouvel espace d'expression est ouvert à divers artistes et différents styles. Alexandre Caldara fait le pari de l'originalité, mais il souhaite surtout toucher les gens, tout comme Karim Karkeni que vous entendrez rire en arrière-fond, qui lui dirige Marge Blanche, autre jeune collection des éditions du Griffon, Alexandre Caldara.
Notre rapport à la littérature vient aussi du fait que la littérature n'a pas été une évidence dans nos vies. On aimait plus le football, les deux, et on aime toujours le football, hein, je tiens à le dire, l'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, il y a des écrivains sud-américains comme Alejandro Zambrano, que je suis en train de lire en ce moment, qui écrivent des choses magnifiques là-dessus. Vraiment, on peut aimer les deux, on doit aimer les deux, mais c'est vrai que la littérature paraît plus difficile que le football. Moi, je pense que c'est la même chose. Les grandes actions de football qui m'ont enchanté dans la vie, elles peuvent ressembler à une phrase qui nous échappe, et je pense qu'un joueur comme Hatem Ben Arfa, il échappe à tout, quoi.
Des propos recueillis par Vincent Costé, reçus à la librairie de la Méridienne à La Chaux-de-Fonds par Alexandre Caldara et Karim Karkeni. Et on passe au sport, c'est un Tavanois qui décroche les tirates. Timé Lichti a remporté la manche de VTT du Trophée Jurassien ce matin à Épauvillère. Il a avalé les 36 km de parcours en 1h32, devançant d'un peu plus d'une minute le champion de Suisse Andy Clay, qui a dû batailler avec quelques problèmes mécaniques. Timé Lichti savourait sa victoire sur la ligne d'arrivée, lui qui a connu une baisse de forme ces derniers mois.
C'est vraiment une victoire qui fait plaisir parce que j'ai eu un début de saison assez compliqué. J'ai eu 2-3 petits soucis. Du coup, là, de nouveau être en forme, c'est vraiment cool. Surtout de pouvoir gagner sur une course du Trophée Jurassien. Je sais qu'Andy, il a eu un petit souci mécanique. Mais sinon, ça fait plaisir de pouvoir jouer la bataille avec lui tout au long de la course. Du coup, c'était vraiment sympa. Toute la course a roulé fort. J'ai juste pu faire l'écart dans le dernier plat le long du Doubs. Là, j'ai pu prendre l'avance. Heureusement, parce qu'après, dans la dernière montée, j'étais un peu limite crampe. Donc, c'était très confortant d'avoir un peu d'avance.
Et les conditions n'étaient pas forcément faciles avec un parcours assez gras. Comment vous avez vécu ça ?
Ce matin, quand je me suis levé et que j'ai vu qu'il pleuvait, la motivation elle était droit pas au plus haut. Mais c'est quand même des conditions que j'apprécie. Ça rend la course plus difficile. Et du coup, c'est un peu plus sélectif. Je dirais que ça fait un peu plus d'écart. Tout est plus physique, tout est plus dur. Donc il faut bien gérer son effort.
Des propos recueillis par Corentin Reyes. Noé Ponty est devenu aujourd'hui à Singapour le premier nageur suisse de l'histoire à remporter deux médailles lors des mêmes championnats du monde. Après l'argent sur 50 mètres papillon, le Tessinois est aussi monté sur la deuxième marche du podium sur 100 mètres papillon, battu par le Français Maxime Grousset. Les détails de Corentin Reyes.
Noé Ponty devra patienter avant de triompher et d'apporter à la Suisse la première médaille d'or de son histoire dans des mondiaux. Le Tessinois a pourtant mis une claque à son record de Suisse lors de cette finale. Meilleur temps des séries et des demi-finales dans sa discipline fétiche, et il a nagé en 49 secondes 83, ce qui fait de lui le cinquième homme le plus rapide de l'histoire. C'est 33 centièmes plus vite que son précédent record, mais il reste à 21 centièmes du nouveau champion du monde, Maxime Grousset. Le Français signe lui le quatrième chrono de l'histoire et un nouveau record d'Europe. Quant à Noé Ponty, il décroche une nouvelle médaille sur 100 mètres papillon après le bronze des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et la place de vice-champion d'Europe 2022. Avec ses deux breloques obtenues à Singapour, il efface ainsi ses désillusions des derniers Jeux de Paris.
Victoria Golubic échoue en finale en Pologne. La joueuse de tennis zurichoise s'est inclinée cet après-midi à Varsovie devant la Tchèque Katerina Siniakova 6-1, 6-2. Météo, le ciel devrait rester mitigé ce soir. Des averses éparses sont attendues en soirée. La nuit devrait être plus sèche mais fraîche. Demain, le temps sera plus ensoleillé le matin. L'après-midi devrait être plus couvert. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Une très belle soirée à vous.